Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas au 3 quai Rive-Neuve à Marseille sur 95.1. Retrouvez toutes nos actualités sur le compte Facebook et Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Yvan Cassard, compositeur et pianiste français, mais aussi grand amateur de vin, qui nous fera partager ses coups de cœur côté Bacchus et le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'œnotourisme et les spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et gagner également 6 verres macarons fascination de la marque Chef et Sommelier en jouant sur invinoradio.tv. Aujourd'hui à mes côtés, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal, Laurence Perrault, notre consoeur de Sud Radio, amatrice de vin et animatrice sur M6, ainsi que David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Philippe Levaux, qui est le directeur général délégué de Cordier by Invivo, pas Invino, Invivo. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Bah alors, avant de parler de vin, parce que c'est quand même le sujet, vous adorez le rugby. Vous êtes un fan de rugby, quoi. Sud Radio, c'est la station du rugby. Et vous avez également investi dans un ballon magique, racontez-nous.
Non, je ne peux pas le cacher, ça c'est une vraie passion, mais que je partage avec la passion du vin. Et donc oui, on sera partenaire notamment de la Coupe du Monde en France en 2023. Ce sera une Coupe du Monde dite de découverte des terroirs et on aura la chance de faire découvrir région par région, stade par stade, le savoir-faire de nos vignerons. Et d'ailleurs, les caves coopératives vous saluent tous.
Oh là là, c'est génial. Alors racontez-nous, avant d'arriver dans le vin, c'était dans l'année 2018, vous faisiez quoi exactement ?
Oh, j'ai commis plein de choses, mais notamment dans tout ce qui était relatif à la sécurité des aliments. Et puis j'ai une petite passion pour le ballon que j'assume aujourd'hui et que j'assouvis au travers de la marque Birutbi que j'ai rachetée pour que... on puisse voir de beaux matchs de rugby. Vous savez, on dit...
Un ballon français, monsieur.
Un ballon français.
Attention.
Donc on dit les règles nous opposent et le ballon nous unit. C'est joli, non ?
Oh, que c'est beau. Hélène Piau, ça vous plaît, non ? Si un garçon vous dit ça, vous tombez sous son charme, non ?
Ah bah forcément.
Et alors, c'est vous, Laurence, aussi ?
Si en plus, ils sont 13 ou 15 et en short, alors là, je ne réponds plus de rien.
Et voir à 7. Car il y a aussi le rugby à 7.
Ouais, mais enfin, commencer par un 7.
Voilà. C'est ça.
Mais alors, de 5 à 7 ou de... Pardon.
Bon, bon. On y va, là, Hélène.
On était là pour parler de vin, Laurence, oui. Il me semble. Je réfléchis, mais c'était ça l'idée, non ?
C'est comme le bonheur, il n'y a pas d'heure.
C'est vrai.
C'est pas mal, c'est
donc,
bien répandu. Ça.
Alors, Cordier par by Invivo, je vais essayer de me reconcentrer, ça ne va pas être facile. Hein. Donc, effectivement, un très très grand groupe français, le troisième de la filière vin française. Vous êtes essentiellement sur la moitié sud de la France, bon, ça va avec le rugby. Et puis, effectivement, un incontournable dans la production française, avec des activités très variées, à la fois en vrac, en marque de distributeur, et puis de très beaux projets à l'international, des partenariats avec les USA. Il y a plein de choses qui sont prévues chez vous, en Italie, l'Argentine.
Exactement. On a aussi des projets sur le Japon. Donc,
mais c'est que des pays de rugby, ça. Italie, Argentine,
ça
Japon.
Facilite.
Je voudrais pas dire,
vrai,
mais
un petit peu peut-être sur le groupe en lui-même.
Oui. Donc le groupe, c'est en fait une empreinte sur plusieurs territoires viticoles, hein, le Bordelais, le Languedoc. On va jusqu'au Beaujolais. On a aussi des projets pour remonter un peu plus au nord de la Loire, mais c'est vrai que principalement pour l'instant, c'est ces territoires-là. Donc là aussi, où le monde coopératif et des caves coopératives s'est beaucoup développé, puisque je vous rappelle que 60% de la production française passe à un moment ou un autre au travers de ces caves coopératives.
C'est vrai, on l'oublie trop souvent. Hein.
Oui, on l'oublie trop souvent parce que vous regarderez avec précision ce qui se passe en Champagne à l'heure actuelle. Mmh. Et il y a des mouvements, des mouvements de balanciers où parfois les récoltants manipulateurs reprennent leur indépendance et veulent faire leur commerce de leur propre champagne. Et puis d'autres fois, au vu des prix des négociants, ils préfèrent amener tout à la cave coopérative et après au travers des négociants. Mais en ce qui nous concerne, c'est ça, c'est cette empreinte-là. Et puis, beaucoup de projets pour la filière française, donc la développer à l'export. Mais ça passe aussi avec des partenariats, comme vous l'avez évoqué, comme avec Fecovita en Argentine, qui est un autre groupe coopératif argentin. Beaucoup de Malbec là-bas. Et on travaille ensemble aux États-Unis. On partage les mêmes bureaux, les mêmes distributeurs.
David Cobol, un petit mot peut-être sur l'Argentine côté Bacchus. Il n'y a pas que du rugby, hein.
Il n'y a pas que du rugby, il y a beaucoup de vin, il y a beaucoup de asados également. Enfin, l'Argentine est connue pour beaucoup de choses. Mais pourquoi le Malbec est arrivé là ? C'est une affaire assez curieuse. Au fait, il y a eu une énorme émigration de vignerons du sud-ouest de la France vers les pays d'Amérique latine à cause du provoqué par les phylloxera notamment. Parce qu'il ne faut pas oublier cette catastrophe qui a ruiné des milliers de vignerons. Donc certains sont arrivés à partir avec leurs pieds, et des gens du sud-ouest, donc Cahors notamment, sont partis avec des pieds de vigne en Argentine. Il y a aussi la plus grande plantation de tanates en Uruguay et la plus grande collection de carmenères, cépage qui a quasiment disparu du bordelais, au Chili. Donc il y a une filière sud-ouest Amérique du Sud qui est assez logique et de longue durée. Je rappelle que le grand théâtre de Santiago de Chile, l'opéra, était construit par le même architecte que le Grand Théâtre de Bordeaux.
Absolument. Et on parle également de cette marque Cordier, peut-être, parce que elle est magique.
Oui, elle est magique parce qu'elle évoque un grand négociant de la place de Bordeaux, mais originaire de Lorraine.
Mirabel, c'est ça.
Voilà. Et puis, il a développé ses activités au travers du négoce. Il était assez inspiré, un des premiers exportateurs et avoir pris son bâton de pèlerin pour aller aux États-Unis. Puis après, sur sa fortune de négociant, il a investi dans un certain nombre de propriétés à l'époque, Talbot, Gruau, La Rose et bien d'autres. Et c'est arrivé dans le giron d'Invivo en 2015. Et on a souhaité garder ce nom pour l'identité globale du groupe et de nos activités vins. Donc maintenant, c'est Cordier qui signe un certain nombre de vins et de marques que l'on exporte. Mais voilà, c'est un véritable nom et c'est un drapeau commun. Ou comme je dirais chez moi, c'est un maillot commun.
Et oui, ça c'est. Et on parle un petit peu de marques. Vous avez connu beaucoup de marques avant d'arriver dans le vin.
Et le maillot, ça maille.
Et le maillot, ça maille. Oui,
ça fait le maillon. Voilà.
Ça fait aussi
le maillon fait l'union.
C'est très bien, David. On va continuer. Est-ce que c'est vraiment un facteur clé de succès, y compris dans ce domaine du vin, d'avoir une marque forte, mon cher Philippe?
Nous, on y croit fortement parce que justement, on est là pour agréger ces fameux territoires qui sont maillés par des caves qui ont une empreinte territoriale. La problématique d'une cave coopérative, c'est que son objet, c'est de faciliter le développement du vin de la région idoine qui correspond à la coopérative. Quand on est à notre niveau un véhicule de l'Union, pour nous, c'est de développer l'ensemble des territoires en bâtissant une liste de vins. D'accord, comme et là, on a de la diversité. Et au travers de cette diversité, on est capable aussi d'amener des phénomènes de marque, de marketing, comme font de très grands négociants déjà. Donc chez nous, c'est par exemple une marque comme Café de Paris. Elle est intemporelle. Elle ne peut pas dire son origine, à part qu'elle a cette signature très lifestyle parisien. Pour autant, elle est produite à Bordeaux, sachez-le, dans une usine que nous avons repris à Pernod Ricard. On a une marque comme Mythique, qui est une marque historique du Languedoc qui a eu à l'époque de Vinadius, mais des développements énormes, plus de 10 millions de bouteilles aux États-Unis. Donc c'est tout ça qu'on fait revivre. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de la marque quand elle est un trait d'union sur des territoires.
Un commentaire sur les syndicats dans les coopératives du sud de la France? Non, pas de commentaire.
Non, pas de commentaire.
Pas de commentaire, chacun sa vie, quoi.
Bah oui, on vit ensemble.
Oui, c'est très ça. Hélène,
vous ouvrez aussi le portefeuille à des marques sans alcool. Je pense à Bonne Nouvelle.
Oui, alors Bonne Nouvelle est une marque sur tous les sens, elle a tous les actifs. D'abord, c'est la première marque de sans-alcool en termes de part de marché en France. C'est intéressant parce que c'est un vrai mouvement aujourd'hui, un mouvement qui oscille entre deux phénomènes. Le premier, il y a une grande bataille juridique qui a lieu actuellement au niveau européen pour définir ce que c'est qu'un vin sans-alcool.
Est-ce que ça existe ?
Alors, la définition est très particulière parce qu'en fait, les modes de production nous laissent toujours une trace de 0,5% d'alcool. Donc, on ne peut pas dire vraiment que c'est comme la bière, 0,0, que c'est totalement sans alcool. Donc, le législateur est en train de proposer une définition de partiellement désalcoolisé, ce qui est très, vous voyez, c'est très sexy quand même.
Absolument, c'est super. Ça s'exporte bien comme terme.
Voilà. C'est long. Et puis on a des opérateurs qui eux, on se sont dit, on va partir des mous et puis on va créer un liquide sans alcool. Mais nous disons que ça n'est pas un vin. Il n'y a pas eu des phénomènes.
Ça s'appelle un jus de fruits.
Voilà. Donc il y a une vraie bataille actuellement que bon nombre de produits, dont les Italiens, mènent au niveau européen. Donc ça, c'est la première chose. On n'est pas comme la bière. On peut pas dire 0,0. Pas dans ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une vraie demande consommateur. Il y a une vraie demande consommateur de trouver des produits qui gardent une structure aromatique quand même assez caractéristique et qui nous permet d'oublier l'alcool. Donc moi, je dis toujours, on va essayer de faire un 100% vin et 0% alcool. C'est ça l'enjeu pour nous tous. Mais Bonne Nouvelle répond déjà à ça, mais je suis sûr qu'on peut aller encore plus loin.
Hélène ?
Bonne Nouvelle pour le moment, vous le déclinez en sec et en effervescent ? Enfin, voilà. Tranquille et en effervescent,
en tranquille,
pardon.
En effervescent, on joue sur des phénomènes de cépage, hein, en chardonnay, par exemple. Voilà, ça, c'est un spectre de 5 à 6 références qui suffisent aujourd'hui pour créer un peu de diversité dans la consommation du sans-alcool.
Et on peut alcooliser des vins à 3-4 degrés, il y a aussi un marché ?
Ben, il y aurait un marché, là encore on est dans la problématique de la réglementation. Vous savez qu'on ne peut appeler vin que si c'est au-dessus de 8 degrés. Hein ? Alors que je pense sincèrement que c'est une des problématiques qu'a connu par exemple Bordeaux. On doit revenir à des taux qui sont plutôt aux alentours de 12-13. Et il y a vraisemblablement un marché en dessous de 10. On le voit sur les marchés Nord-Europe. Et c'est des choses très intéressantes il faut
regarder. Vous avez goûté des vins, des vins, on l'appelle comme tel, à 3-4 degrés, Laurence ou Hélène?
Non, mais il existe
ou David.
Une appellation en Italie, la Moscato d'Asti, qui titre 5 degrés d'alcool. Mais
c'est
ça,
bon?
Ça oui. Oui, c'est absolument délicieux, mais c'est très proche d'un jus de fruits. C'est légèrement perlant, beaucoup de sucre, parce que c'est une fermentation à arrêter avant la fin. Après, il y a les vins allemands, les vins doux de la Moselle, par exemple, qui titrent parfois 6, 7, 8 degrés. Et ça, c'est une tolérance locale à cause de cette tradition.
Et vous, Laurence, vous connaissez un peu ?
Jamais.
Jamais
goûté, moi. D'accord. C'est un vin, sinon rien.
Et vous, Hélène ?
Oui, alors j'ai déjà goûté, effectivement, différentes choses.
Peut-être.
Et c'est intéressant. Après, effectivement, enfin, moi, j'ai jamais réussi à retrouver complètement la promesse vin. On sent que c'est pas du vin.
Il manque un truc.
Voilà, c'est ça, on sent que c'est pas du vin.
Je suis désolé, la Moscato bon. d'Asti.
Ah non, le Moscato, c'est différent.
Ou les Riesling doux allemands,
c'est très bon, ça.
Je pensais plutôt à des vins récents français.
Allez, pour terminer,
plutôt qu'à des vins traditionnels.
Mon cher Philippe, la question qui tue, est-ce que les champions du monde en 2023, grâce à vos vins Cordier ?
Moi, je le pense. En tout cas, c'est un avantage que va avoir l'équipe de France. Il faut qu'elle le reconnaisse. D'avoir Cordier au soutien, c'est certainement déjà faire un grand pas vers la victoire.
Avec modération, tout ça, bien sûr. Merci beaucoup, Philippe Levaux. Merci également à vous, Laurence, Hélène et David. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner 2 places pour le WST, le premier salon mondial de l'œnotourisme et des spiritueux qui va se dérouler en mars du 12 au 14 à Reims et gagner également 6 verres Macaron Fascination de la marque Chef et Sommelier.
Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique au 3 quai Rive-Neuve à Marseille sur 95.1. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Et n'hésitez pas à aller voir sur le compte Instagram Invino Sud Radio. David Cobold, le Vino Quiz, c'est maintenant.
Alors, une question d'abord. Est-ce que vous voulez gagner 2 places pour le WST International Wine Trade Fair?
Oh, oui.
Mondial. Oui.
Oui, oui. Bon, alors, il faut patienter déjà parce que c'est en mars, entre le 12 et 14 mars 2023 à Reims. Et plus 6 verres de macarons Fascination de la marque Chef Sommelier. La question à laquelle il s'agit de répondre, c'est comment se nomme l'entreprise éco-responsable créée par Michael et Camille Alboghetti. Option A, No Drinks. Option B, Ethic Drinks. Option C, Summer Drinks. C'est très anglais tout ça.
Absolument.
Oui, donc vous répondez
alors,
bien.
La réponse, c'est quoi? Ah ben non, il ne faut pas vous donner
non,
réponse.
Non, mais
ben
non, vous allez sur le site tout de suite, le site Invino Radio. toutattaché.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci David Cobold, Invino sur Radio a le grand plaisir de retrouver Laurence Perrault pour le concept Un vin, une émotion, avec un nouvel invité, Yvan Cassard, compositeur et pianiste français. Bonjour Yvan, bonjour Laurence.
Bonjour Yvan.
Bonjour.
Alors on ne va pas se retrouver aujourd'hui pour parler musique, mais je vais juste vous poser une question Yvan. Le dernier vin qui vous a déclenché une belle émotion?
Tout de suite, je pense à un vin que j'ai goûté alors que j'étais un jeune homme, encore inexpérimenté, qui est la Côte Rôtie de Jean-Paul Jamet. Je suis un amoureux des Alpes du Sud et j'étais dans un endroit absolument divin qui s'appelle Lousteau de Beaumanière, qui a un hôtel-restaurant incroyable avec toute cette vue sur les oliviers. Et ça a été un de mes grands chocs parce que j'étais plus, finalement, quand on commence sa vie, on aime les Bordeaux, on va au plus simple. Après, on va en Bourgogne. Et puis, on connaît mal tous ces vins du Sud. Enfin, moi, je connaissais mal. J'étais avec ce sommelier qui est devenu un ami 20 ans plus tard. Et je me rappelle de cette sensation absolument inouïe quand j'ai goûté la première gorgée de ce vin qui est tout en épices, en menthol, en fraîcheur et avec les olives qui sont dans la bouche et qui sont devant vous. Enfin, c'était incroyable. J'étais avec mon amoureuse et ce jour-là, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi et c'est inoubliable.
Un domaine jamais, hein, qui est situé à Ampuy, on est dans les Côtes-du-Rhône, un domaine qui est assez reconnu, si vous ne le connaissez pas, il faut le boire parce que c'est un vin qui a cette chaleur d'une émotion forte, comme de l'amour en fait, avec la Syrah qui le compose.
C'est ça, il vous emporte, c'est un vin qui vous cajole et souvent on dit les vins du Sud, on a une image voilà, avec le soleil, ils vont être forts, ils vont être puissants, ils vont être tanniques, mais là pas du tout. Et vraiment c'est la fraîcheur, j'ai envie de retenir la fraîcheur et quand on est là comme ça écrasé par le soleil dans le Sud, vous avez ces paysages, parce que c'est un vin évidemment, c'est le paysage c'est quand même très 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 vallonné, donc c'est un vin qui est difficile aussi à obtenir, à un raisin qui est compliqué à récolter, donc c'est un vrai travail, un vrai souci pour avoir une qualité et c'est un vrai voyage.
Vous, vivre sans vin, c'est possible ?
Non. Non, non, franchement, j'aime vraiment boire un verre comme ça. Ouais. La musique, c'est ma passion première et j'aime toutes les musiques. Et j'ai envie de dire que pour le vin, c'est pareil. Parce que mon grand-père était à Bourgueil, donc j'aime les vins de Loire. J'aime de plus en plus les Grands Bourgognes. Et c'est vrai que les vins du Sud, en vivant beaucoup dans le Sud de la France, j'ai appris à découvrir des merveilles. Et comme ça, je vous parlerai volontiers aussi de Dominique Ovette, une formidable vigneronne.
Très bien.
À Saint-Rémy-de-Provence. C'est magnifique. C'est un vin tout à fait unique aussi.
Eh ben on aura l'occasion de se recroiser, Yvan.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Yvan Cassard. Vous pouvez retrouver Yvan Cassard soit à travers le magnifique album Johnny Symphonique, hein, puisque c'était quand même aussi un grand musicien de Johnny Hallyday. Il est actuellement en tournée. Ce lundi, il sera à Lille, au Zénith Arena de Lille. Et il sera également le mardi 24 mai au Zénith de Rouen.
Merci à tous les deux. Nous y serons. David Kobold, on parle de quoi là aujourd'hui? On parle du Condrieu. Là, c'est du blanc, c'est du rouge. C'est quoi le cépage?
On parle d'un cépage qui s'appelle Viognier, un cépage blanc qui a sa renommée et probablement son origine dans la région du Côte-du-Rhône du Nord et notamment l'appellation Condrieu, qui est une petite appellation, environ 170 hectares, avec une petite extension qui réellement fait partie de Condrieu, qui s'appelle Château Grillet. C'est une des rares appellations Château Grillet qui, c'est un seul propriétaire, un seul château et une appellation à part. On ne sait pas comment ça a été obtenu, mais c'est comme ça. Bon, Condrieu, unique cépage vionnier, aujourd'hui vinifié en sec, mais autrefois on faisait également des vins doux. Et c'est un cépage qui a une histoire assez curieuse parce que ça a failli disparaître. Hein. Entre les années 50 et 70, la rentabilité était quasi nulle, voire négative, et les gens ont arraché la vigne. En 76, il restait 10 hectares de vionnier dans le monde entier. Donc un cépage en voie de disparition. Ça a été sauvé par un bonhomme en particulier, Georges Vernet, qui a milité pour la qualité, qui a encouragé, du coup, qui a fait beaucoup pour le faire vendre, le faire reconnaître, parce que ça peut faire des très, très grands vins. Je dis ça peut, ça ne fait pas toujours des très grands vins. Et d'autres ont suivi. Et avec la rentabilité revenue, les gens ont été encouragés de planter. Donc aujourd'hui, c'est à 100% planté, l'appellation Condrieu. Alors, c'est un cépage qui a des caractéristiques assez particulières et peu banal pour un blanc, peu d'acidité, très peu d'acidité, c'est même un défaut dans certains cas, et beaucoup de sucre et du coup beaucoup d'alcool. Donc c'est des vins assez fortement charpentés ou ça peut l'être. Ce qui pose un dilemme pour les propriétaires à Condrieu aujourd'hui, lorsqu'on constate le réchauffement climatique, l'alcool monte avec ça, parce que le sucre devient de plus en plus important. La réussite de Condrieu a provoqué des plantations de vionniers un peu partout dans le sud de la France, le reste de la vallée du Rhône, le Languedoc également, ainsi que pas mal de pays étrangers, donc c'est un cépage à la mode. Il ne réussit pas, pour moi, très bien dans les endroits plus chauds que la vallée du Rhône.
Ah oui.
Non, ça devient très, très vite lourd, mou, sans intérêt.
Donc pas agréable.
Pâteux,
quoi.
Pâteux. Ouais, hein,
ouais. Lourd.
Un truc lourdingue. Sauf si on les plante en altitude ou sur des faces nord dans l'hémisphère nord ou face sud dans l'hémisphère sud. Enfin bon, il faut chercher son coin frais. Alors, à Condrieu, j'ai assisté à une grande dégustation l'autre jour où j'ai pu goûter une vingtaine d'exemplaires de Condrieu du millésime 2020, organisé par l'appellation. Très bien fait. Ça a été
suivi. Il y a Laurence qui est en train de vous regarder. Elle vous dévore
des yeux. Ça a été suivi
par
une dégustation de côte rôtie.
On
a goûté aussi à peu près une trentaine.
Appelez Laurence la prochaine fois.
Oui,
je vais appeler
David.
Laurence la prochaine fois.
S'il vous plaît.
Absolument, oui.
Ah oui.
C'est une excellente manière d'obtenir le numéro de téléphone de Laurence.
Sinon, alors, vous me demandez. David,
alors, donc, cette dégustation, pour moi, a illustré le dilemme dans lequel les propriétaires de Condrieu se trouvent. Parce que j'ai trouvé trois styles de vin assez différents. Il y avait le style léger, un peu vif, avec pas mal d'amertume, parce que c'est un cépage qui contient de l'amertume, mais il faut le raisonner. Il ne faut pas qu'il soit trop dominant. Une acidité et puis un décor un peu mince, un peu maigre. à l'opposé de ça, des vins très lourds, très puissants, extrêmement expressifs, parce que c'est un cépage extrêmement aromatique, mais un peu lourdingue, un peu too much, presque écœurant. Et puis au milieu, ceux qui ont trouvé le bon filon, l'équilibre, voilà. Tout est dans l'équilibre dans le vin, où il y avait à la fois la fraîcheur et l'aromatique et parfois ces petites pointes d'amertume qui fait que le Condrieu peut aller très bien sur des asperges, par exemple, qui sont difficiles à associer. Avant de vous parler des bons vignerons que j'ai trouvés lors de cette dégustation, et puis bien sûr, il y en a d'autres, parce que tout le monde à Condrieu n'y était pas. Je rappelle qu'il y avait 90 producteurs au total à Condrieu aujourd'hui, à peu près. Et moi, j'en ai goûté qu'une vingtaine. Il faut quand même parler un peu plus des caractéristiques de ce cépage viognier. C'est à la fois floral et fruité. Donc, les fleurs, ça peut être la violette, ça peut être la fleur d'acacia, la fleur d'oranger. Elles sont assez exotiques, voire un peu tropicales dans son accent. Des fruits jaunes, typiquement abricots et pêches, parfois des touches de miel et d'épices dans les versions les plus riches. Voilà, donc cette caractère extrêmement expansif, extrêmement expressif, a rendu le viognier extrêmement populaire. Ça a impliqué son expansion vers les coins du sud de la vallée du Rhône et dans le Languedoc, mais aussi dans d'autres pays. Je nomme par exemple l'Afrique du Sud, l'Argentine, l'Australie, la Bulgarie, des parties de la Californie et de l'Oregon aux États-Unis sur la côte ouest, le Chili, la Croatie, l'Italie et la Suisse. Donc tout ça, cette extraordinaire réussite, partant de quasiment rien, je rappelle, 10 hectares au total à Condrieu dans les années, au milieu des années 70. Merci Georges Vernet. Après, il ne faut pas en abuser, comme je le disais, il faut le planter dans des coins un peu frais pour un climat chaud. C'est-à-dire que c'est un mix assez complexe entre la chaleur nécessaire pour arriver à maturité, mais pas trop pour détruire le peu d'acidité que ce cépage contient. Donc peut-être un mot sur les très bons vignerons en France et à Condrieu en particulier que j'ai pu goûter récemment, mais je rappelle que j'ai aussi goûté un magnifique Condrieu dans les montagnes qui font la frontière entre le nord de la Californie et l'Oregon. J'ai goûté un très bon viognier du Languedoc aussi, mais sur une zone montagneuse face au nord. Alors, ce que j'ai particulièrement aimé, qui ont trouvé ce point d'équilibre entre richesse et absence de mollesse et donc vivacité, domaine de Bonserine, le domaine Châtaignier, le domaine Cuiron, c'était leur cuvée qui s'appelle Verlieu. Je rappelle que Cuiron est régulièrement très bon dans cette appellation, comme dans d'autres des Côtes-du-Rhône du Nord. Domaine Duclos, la cuvée s'appelle Les Cahiers. Domaine Farge, grain d'émotion. Effectivement, c'était une émotion. Domaine Augier, la cuvée s'appelle La Combe de Malleval. Et domaine Pierre-Jean Villard, je dirais que les plus fins de tout cela, c'était peut-être Cuiron et Pierre-Jean Villard. Après, bien sûr, il y a d'autres bons producteurs. On pense à Pierre Guerrière, on pense à plein d'autres gens qui peuvent réussir dans une année, voire dans toutes les années, parce qu'ils sont des vignerons très consciencieux. Donc, en résumé, c'est un cépage qu'il faut bien choisir. Il ne suffit pas de dire viognier et tout est bon. D'ailleurs, on ne peut jamais dire ça d'aucun cépage, ni d'aucune appellation. Mais c'est un cépage qui a une caractéristique très, très particulière, qui peut se boire seul, à l'apéritif, qui peut se boire avec des mets relativement riches. Attention quand même à ne pas choisir des exemples trop molles, manquant de fraîcheur et ayant un peu trop d'alcool.
Bon, super, merci mais beaucoup David.
Il y a de très grands vins
Des
Condrieu.
Pépites quoi, merci beaucoup David.
Vous
Cobold.
Nous en avez ramené
et oui, bien sûr, c'est pour tout à l'heure. Merci également Yvan Cassard, Philippe Levaux, Laurence Perrault, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook ou le compte Instagram, Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, 13h30 précise, pour un nouveau numéro chez Nicolas Le Cavis, qui a été fondé en 1822. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.